Qu'est-ce qu'une semaine sans véritable actualité littéraire? C'est une semaine sans figure dominante imposée, en une ou en page intérieure, passage obligé de la critique, qui d'abord suit le tempo des éditeurs et la distribution sur plusieurs semaines des thèmes de l'actualité. Mais aussi, c'est une manière de maintenir la cohésion du champ littéraire. Un grand auteur est grand aussi parce qu'on parle de lui, et comme on parle de lui, il fait partie des grands auteurs, il a en quelque sorte son moment de gloire annuelle. Comme avec la fin des Malocènes, par exemple, pour Pennac, dont il était fortement question en janvier et dont le dernier avatar critique était publié ce samedi dans la rubrique « Pourquoi ça marche ?» de Libération. 25 février pour une sortie en janvier, voilà qui s'appelle de la durée. Mais non, une semaine sans actualité ne s'appuie pas sur le vide pour autant. La critique fait son tri dans les figures et les sorties moins urgentes, même si pas moins importantes. Si Monique Wittig ouvre l'UMA, c'est parce qu'elle cumule 20e anniversaire de sa mort et 50e de son œuvre majeure ou une de ses œuvres majeures, Le corps lesbien, cause pour laquelle elle a été reconnue et dont elle a été précurseur. Lectures, sorties, événements autour de ses œuvres ont lieu à Paris en ce moment, et pas seulement à Paris, ce qui explique son actualité d'une certaine manière. Il s'agit donc de prendre du recul sur l'époque. Et ça tombe bien parce que le Figaro littéraire s'intéresse, comme assez souvent en période de basso, à la Pléiade et à ses publications. Cette semaine, c'est Steinbeck, mais aussi la collection tout entière, avec un jeu typiquement critique et spéculatif. Qui devrait y entrer? Qui devrait y figurer depuis longtemps? Ce que Mohamed Aissaoui, qui écrit l'essentiel du dossier, nomme les absences injustifiables. Pagnol, Guitry, Loti, passe encore, mais Perrault, Rostand et son Cyrano. Hugues Pradier, qui est son directeur éditorial, se défend. Cela voudrait dire que c'est un cimetière, or c'est tout le contraire. Et de préciser, la Pléiade n'est pas non plus un service public. Bon, merci. Quelques chiffres extrêmement précis pour illustrer le propos. Le plus vendu, Saint-Exupéry, 341 319 exemplaires depuis 1953. Proust en deux avec 252 605. Mais il ne s'agit pas de l'œuvre complète de Proust, il s'agit du premier tome de la recherche. Le second est à la quatrième place avec 207 000 lecteurs, 773, et le 3, 197 000. Une petite érosion de tome en tome. C'est vrai que la recherche, c'est long à lire. Le numéro 3 dans cette série, puisque là, nous avons le 1, le 4, et le numéro 3, eh bien, c'est Verlaine, le doux poète, qui est publié, alors lui, depuis très longtemps, 1938, et qui continue à engranger des lecteurs au fur et à mesure des années. C'est aussi le moment, cette période, de mettre en avant des œuvres qui marquent une transmission, une continuité de la vie des lettres et de la pensée. C'est le cas avec l'édition des Séminaires de Lacan par son élève et gendre Jacques-Alain Miller, dont Libé de jeudi nous raconte qu'il regrette les affrontements passés entre Lacan et le milieu de la psychanalyse. Il ne regrette pas les affrontements, il regrette qu'on ne s'affronte plus. Toujours est-il, parce qu'il aime la bagarre, comme il dit, toujours est-il qu'il dirige l'édition des Séminaires, pas encore complète à ce jour. Il reste 6 volumes rédigés jusqu'au dernier. Si je devais disparaître entre-temps, tout est là, dit-il. D'où ma sérénité. L'époque était différente. On allait aux conférences et aux séminaires par goût du spectacle et de la curiosité intellectuelle. Il y avait des mondains dans le public. L'auteur déplore la disparition de la vie intellectuelle turbulente autour de la psychanalyse. Continuité aussi, en une de La Croix, mais continuité motivée par la durée du problème racial aux États-Unis et dans le reste du monde. Teju Cole, 47 ans, prend le relais d'Alec Baldwin, ou plus exactement, tente de prolonger son œuvre, sa réflexion, quitte à pointer quelques différences. Baldwin interrogeait son essence et sa condition depuis la Suisse, où il était exilé, tout en soulignant le luxe de pouvoir être un étranger aux yeux des Blancs européens. Tandis que les Blancs américains ne peuvent se séparer des Noirs. Les Noirs ne sont plus des étrangers pour eux, ils sont présents depuis trop longtemps les uns dans la vie des autres. Teju, lui, refuse la négation de soi à laquelle Baldwin se sentait condamné, nous dit Fabienne Lemayeux. Tandis que s'il reste vigilant et engagé, il ne refuse pas les apports de la culture européenne. « Je peux très bien m'opposer au suprémacisme blanc, dit-il, écouter malgré tout l'architecture gothique. Mais, il ne faut pas baisser la garde pour autant et considérer qu'il n'y a pas de problème. S'ils ne prennent pas conscience de la méchanceté des autres, les gens gentils finissent par devenir méchants, dit-il en substance. Célébration, conservation, transmission, comme on peut le voir, la littérature cette semaine continue d'évoluer, même en dehors du grand bruit de l'actualité. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. À la semaine prochaine.